Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Sarah Barouk qui est écrivaine. Bonjour Sarah.
Bonjour.
C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Tout d'abord, alors tu as fait de l'écriture, de scénar, tu as lu des scripts, mais tu es surtout écrivaine depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans le monde de l'écriture ?
Je crois qu'on se définit par la façon dont on se raconte dans la vie. Et donc à l'origine de toute personne et de toute relation sociale, il y a une histoire. Et j'ai voulu explorer cette façon dont le même événement peut revêtir plein de facettes différentes selon la façon, la personne qui raconte. Et très vite, du coup, je suis arrivée dans l'exploration de tout ça.
Tu avais fait des études déjà lettres ou tu étais dans quelle mouvance au départ, dans ton bagage d'éducation ?
Pas du tout. Moi, j'ai toujours aimé écrire. J'avais mon cahier de poésie depuis que j'avais 6 ans. Et un jour, si tu es gentil, je te ferai écouter mon poème sur les mauvaises herbes.
D'accord.
mais pour moi, en tout cas, de la façon dont j'ai été éduquée, ce n'était pas envisageable une carrière artistique et surtout le flou de l'écriture. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait une prépa HEC et très vite, j'ai déprimé.
D'accord. Tu ne te voyais pas rentrer dans des métiers plus convenus Tu voulais revenir à l'artistique et à la création?
En fait, j'avais vraiment besoin que chaque journée, pour moi, ait un sens, mais proche de l'essentiel, en fait. Et c'était vital. Alors, il y a peut-être des gens pour qui, finalement, à accepter de donner une année, deux années, trois années pour obtenir tel job et puis se dire qu'on fait ça la journée et puis finalement, ça nous permet de payer un appart, des vacances, etc. C'est quelque chose que je comprends, mais moi, je ne supportais pas dans ma chair de donner une journée à ne pas œuvrer pour comprendre qui j'étais, pour explorer ce monde, alors pas forcément voyager partout, mais l'explorer de l'intérieur.
Bon, t'es une vraie passionnée, on le sent. Et alors, t'as eu déjà une bonne, pas mal d'écrits, hein. Donc il y a eu Le Cas Zéro, il y a eu Envole-moi, et puis surtout le dernier 125 et des milliers. Tu peux nous parler un peu des grandes lignes avant de revenir à l'actualité de 125 et des milliers, ce qui a sous-tendu tes écrits jusqu'à présent ?
Alors, Elle voulait juste marcher tout droit. Celui-là, c'est mon premier. Et là, pour le coup, moi, j'ai un handicap aux yeux. Et c'était très important pour moi de... quand j'écris un livre, c'est une façon pour moi de ne pas oublier, mais de mettre de côté. Et il y a dans Elle voulait juste marcher tout droit qui traite en fait de l'immédiate après-guerre, qui est une période où on raconte toujours ça comme si ça y est, c'est la fin de la guerre, tout va bien. En fait, ça a été des années horribles jusqu'au début de la mise en place du plan Marshall. Et donc, je voulais en fait écrire une espèce de duo absurde entre une petite fille qui n'a connu que la guerre et qui s'est dit qu'après la guerre, enfin, sa vie allait commencer et qui va devoir traverser les États-Unis avec un homme qui s'est blessé pendant le débarquement et qui est devenu aveugle et qui est son oncle.
Pas mal.
Et
ça fait penser, alors quand on t'écoute tout de suite, mais j'imagine que c'est des inspirations, ça fait penser à Ionesco, ça fait penser un petit peu aussi au film Moonwalk, non, le film qui avait eu l'Oscar.
Ouais, tout à fait.
Je sais plus comment tu te souviens de ce film.
Oui, en plusieurs temps.
Qui était excellent d'ailleurs, la traversée des États-Unis où tu avais le conducteur, et c'était un très très bon film. Qu'est-ce qui a forgé toi un petit peu ton inspiration d'écriture ?
Par rapport à ça, ça a été vraiment une espèce de cri du cœur, je pense. Enfin, moi, ma grand-mère a été cachée pendant la guerre parce que, étant juive, c'était dangereux pour elle.
La vie devant soi, cherchait bien sûr de Romain Gary, qui est très connu.
Ah oui, bah alors ça a été.
C'est un choc celui-là. Hein. La vie devant soi, il est montré souvent dans les écoles et il est encore actuel, je pense, des 10 décennies après.
Écoute, pour moi, ça a été un tel choc que je me suis promenée avec dans mon sac pendant 10 ans.
Ah ben voilà, donc, bon, bah, je tape le bon message avec Momo bien. Et comment s'appelait la grand-mère ?
Madame Rosa.
Madame Rosa, ah oui, il m'a marqué voilà. Ce livre.
Monsieur Hamil, etc. etc. Oui, tout à fait. En fait, donc, moi, ma grand-mère m'a dit une fois que finalement la guerre avait été la plus belle période de sa vie. Chose que je n'ai pas du tout compris, puisque je ne comprenais pas comment une petite juive qui était cachée dans une ferme au fin fond de nulle part, où il n'y avait pas l'électricité, etc., en fait, ça avait été ce qu'elle avait vécu de plus beau. Mmh. Et elle m'avait expliqué qu'elle avait tant espéré dans cette fin de guerre. Elle s'était tant imaginée une maman qui viendrait la chercher, une famille enfin réunie, des grands repas tous ensemble, etc. Et ça avait été une telle chute pour elle de retrouver finalement une famille incomplète puisque son frère était mort à Auschwitz, son père était rentré d'Auschwitz totalement traumatisé, sa mère avait été malade, il n'y avait pas d'argent. Enfin, et elle m'a dit « je ne me suis jamais remise de ce sentiment de désillusion ». Et je trouvais que c'était une idée intéressante puisque moi, je ne l'avais jamais entendue. Mmh. Et je trouve qu'on a beaucoup d'idées préconçues sur ce qu'a été l'après-guerre. Donc, je trouvais cette position, en tout cas, ce point de départ intéressant. Et puis, j'avais envie de parler du handicap comme, je le dis dans le roman, on a tous, pour moi, un handicap, qu'il soit visible ou invisible, mais qui se loge ailleurs. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui est obsédé par un rêve d'enfance à réaliser, quelque part, c'est un handicap parce qu'il a du mal à s'adapter à ce que la vie lui donne et donc à se satisfaire. Et donc, je pars du principe qu'on a tous un handicap. Qu'est-ce qu'on décide de faire ?
Ça me fait penser aussi au poème là, de Kipling, qui est très fort aussi.
Ah, mais toi, t'as trop de références.
Ah, désolé, je pars en référence. Moi, il ne faut pas me brancher sur l'écriture, mais si tu veux être un homme, d'ailleurs, ça peut être si tu veux être une femme, d'ailleurs, parce qu'on va parler des femmes, mais qui est très fort parce qu'il y a chaque phrase... fait de que ton rêve ne devienne que tu ne deviennes pas esclave de ton
exactement.
De ton rêve, c'était un peu ce que là une des phrases du poème de Kipling.
C'est mais pour moi c'est tout à fait juste
et phrase qui me parle moi parce que j'ai un énorme rêve du cinéma de tout ça et parfois entre le rêve et la réalité il faut pivoter comme on dit ou adapter avec ce qui va être possible des opportunités
exactement et ne pas s'empêcher d'être heureux. Moi si tu veux que je te dise ma première idée de scénario quand je m'imaginais encore scénariste, ça s'appelait Trois vœux et c'était l'histoire d'un petit garçon dont les vœux d'enfant lui revenaient en pleine figure. C'était un film un peu fantastique et je me disais mais si tous les petits garçons qui avaient rêvé de devenir pompier ou grand champion de foot et puis de se marier avec leur amoureuse du collège se retrouver du jour au lendemain marié à cette fille qui n'a probablement plus rien à voir avec eux et grand champion de foot, ce serait l'horreur.
Exactement.
Donc y a un moment donné, de toute façon, même le plus grand des rêves, quand il devient un métier, ce n'est plus un rêve.
C'est puis moi, j'aime bien les chemins de traverse aussi. C'est-à-dire que la vie, elle arrive aussi... Ça, encore une citation, mais je vais m'arrêter au bout d'un moment. Je crois que je l'aime bien, c'est de Jeanne Moreau qui disait « La vie arrive avec ce qui n'était pas prévu. »
Exactement.
Et souvent, la vie, finalement, on peut avoir, comme tu dis, des grands rêves ou un schéma préconçu, mais finalement, la vie a toujours beaucoup plus d'imagination que soi-même,
tout à fait.
Finalement.
Et finalement, être heureux, c'est un talent. Et c'est réussir à se rendre compte que... peut-être l'idée qu'on se fait de nous n'est pas la bonne, que l'idée qu'on se fait du bonheur n'est pas la bonne, que l'idée qu'on se fait du succès n'est pas la bonne, et qu'en revanche, ce qu'on a, c'est peut-être ça qui fonctionne.
Ça, c'est pas mal, c'est très actuel par rapport à toute cette image qu'on a des réseaux sociaux, des espèces de fausses images de ce qu'est le bonheur, et finalement revenir un peu aux choses de ce qu'on a au jour le jour et de s'en satisfaire, ce qui n'est pas trop dans l'ADN des Français, j'ai l'impression, de positiver, entre guillemets, avec tout ce qu'on a. Enfin, pas tous, on ne va pas schématiser, mais en tout cas, dans ce que renvoient les médias, je trouve que notre pays, par exemple, a plein de forces, de grandeur, et qu'on a tendance à pas tout le temps le voir.
Mais surtout que je crois que moi, ce qui est le pire dans la vie, en tout cas par rapport à ce que j'ai pu traverser et ce qui a pu me freiner, voire m'handicaper... Moi, j'ai moins été handicapée par mon handicap que par la peur de mon handicap.
Oui, c'est la peur qui fait du mal, finalement.
La peur, c'est terrible, c'est ce qui ronge, et finalement, c'est ce que véhiculent le plus les médias. On a peur de dépenser parce qu'on nous dit « attention, l'inflation, nananana, on a peur de voyager, on a peur de ceci, peur de cela ».
Comment se libérer de la peur ? Parce que ça, c'est toi, tu es une championne, tu as quand même eu des gros handicaps que tu as pu surmonter, donc ça, c'est vraiment sur la résilience. Ça a été quoi tes clés pour... te libérer de tout ça, parce que ça, c'est déjà, bon, il faudrait un podcast en lui-même sur tout ce sujet, mais les grandes lignes qui toi t'ont aidé en tout cas.
Déjà, le fait d'avoir peur n'évite pas le danger. Donc on peut lui laisser la place qu'on a envie, ça ne changera absolument rien. Donc y a, ça c'est pour le côté rationnel. Et ensuite, quand on est dans l'action, la peur n'existe pas. La peur, finalement, il faut la concrétiser, oui, la détailler un maximum.
Tu veux dire qu'on est trop dans le mental quand il y a la peur ? C'est ce qui est souvent un des pièges. Le mental, parfois, peut aussi emprisonner.
Tout à fait. On est une machine à fabriquer des mauvaises pensées. Hein. Le cerveau, oui, il génère 10 000 mauvaises pensées ou pensées négatives par jour. Nos émotions nous font générer des mauvaises pensées, enfin des pensées qui nous nuisent. Par exemple, je parlais de ça avec une scientifique qui me disait que nos émotions sont génératrices de peur. Par exemple, il fait froid. On se dit, je suis dans un pays où il fait froid et il pleut. Finalement, c'est que j'ai pas eu le courage de réaliser mon rêve de partir vivre aux États-Unis. Donc, je suis la dernière des nuls. Donc, oui, en fait, il a raison de mal me parler.
C'est
donc
l'interprétation qui fait mal. C'est la perception qui fait mal. C'est pas le constat. Voilà.
C'est cette réaction en chaîne qui naît finalement d'une première émotion. Et donc, on va se mettre à avoir peur qu'il pleuve, non pas parce que la pluie s'amouille, mais parce qu'en fait, en nous va s'être inscrit la pensée résultante de la pluie sur nos émotions. C'est-à-dire qu'en gros, on va associer la pluie à « je me sens pas bien, je me déteste ». Alors, du coup, on va avoir peur, mais pas de la bonne chose.
Bien sûr.
Donc, si on arrive à analyser mais véritablement la peur, on se rend compte que, ce dont j'ai peur, c'est de passer à côté de ma vie. Mmh. Mais finalement, quand je regarde tout ce que je suis en train de faire, ça aussi, je peux le rationaliser.
Oui, voilà, c'est et souvent donc la parade qui peut aider, c'est quand même construire une confiance avec tout ce qu'on a fait de positif.
Exactement.
Parce qu'on a tendance toujours à voir le fameux verre à demi plein, je dirais, à demi vide, alors qu'on a tous construit pas mal de choses, en fait. Il faut en faire une arme.
Voilà. Et donc, construire et déconstruire les stéréotypes. Encore une fois, on n'a pas peur de la goutte de pluie. On a peur du raisonnement dont on n'était pas conscient jusque-là sur pluie égale, je suis la dernière des nuls.
Mmh. Donc, faire attention aux faux raisonnements, aux barrières de l'esprit et à un peu cette distorsion de la réalité. Alors ça, c'était vraiment ton premier grand écrit. On a un peu divergé, parce que c'est des thématiques qui sont vraiment intéressantes. Peut-être pour parler en quelques mots de tes deux ouvrages d'après avant d'arriver à 125 et des milliers.
Ouais.
Est-ce que tu peux dire en quelques mots des livres que tu as écrits après ?
Alors, écoute, en quelques mots, moi j'ai toujours besoin qu'il y ait un socle historique ou social et de ne pas le raconter comme il a été raconté jusque-là ou pas du point de vue qui a été le plus couramment donné jusque-là. Moi, je pars du principe que toutes les histoires ont déjà été écrites, donc je ne vais pas réinventer les choses. En revanche, vu que je ne vois pas comme tout le monde, physiquement, je me dis que tout cela doit se poursuivre dans ma façon d'écrire.
Là, tu as une vue qui est très diminuée, là, par exemple.
Alors, moi, j'ai ma carte d'handicapé, je suis malvoyante. Ceci dit, on parvient aujourd'hui à me fabriquer des lentilles sur mesure spéciales. Donc, tant que je les ai sur moi, je ne vois pas super bien, mais ça m'arrive de ne pas reconnaître les gens dans la rue, etc. Mmh. Mais je vois suffisamment pour avoir une vie relativement normale. Ça se gâte quand je dois enlever les lentilles.
Il faut dire qu'il faut rendre un hommage à Sarah, parce que je l'avais rencontrée il y a plus de 15 ans. Et elle m'avait parlé de ce handicap et c'était très lourd. Et c'est vrai que quand on voit ton chemin, c'est aussi une leçon pour la résilience et de surmonter des handicaps dont on pourrait se dire ils vont toute ma vie avoir une fatalité. Tu as réussi aussi à en faire quelque chose.
Ouais, mais en fait, tu n'as pas le choix. En fait, moi, je n'ai jamais supporté d'être assistée. Et ne serait-ce que pour avoir une carte d'handicapé, ça, c'est mon médecin qui me l'avait suggéré parce que effectivement, je peux avoir des vertiges, je peux tomber dans le métro, je peux me cogner. Donc, il m'avait dit, il vaut mieux que tu puisses t'asseoir puisque tu as l'intention de continuer à travailler. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi que tu te facilites la vie. Donc, j'avais fait une carte d'handicapé pour ça, pour pouvoir m'asseoir dans le métro pour aller au boulot. Et en fait, ça avait... Il faut toujours se justifier, il faut toujours demander aux uns et aux autres pour espérer avoir un minimum. Et je me suis dit, soit je mets toute mon énergie à espérer être un tout petit peu accompagnée Et donc, j'ai plus la place pour autre chose. Soit je pars du principe que ça n'existe pas et que je vais essayer de mener la même vie que tout le monde. D'accord. Voilà. Et pour moi, ça n'a pas... Enfin, j'ai pas beaucoup réfléchi, en fait.
Alors, l'actu, c'est beaucoup 125 et des milliers, qui est ton livre, un peu coup de poing. D'ailleurs, je t'ai découvert dans aussi des émissions là-dessus. Donc, c'est un sujet ultra actuel qui est, enfin, est très grave, qui est les violences conjugales, entre autres. En quelques mots, comment t'es arrivé à concevoir ce livre? Et j'imagine que ça a été quelque chose à la fois personnel, mais que t'as voulu transmettre à tous les gens qui peuvent rencontrer ces problèmes.
Bah, moi, je suis restée... Comme tu l'as dit, j'étais quelqu'un qui a été quand même pas mal abîmé par la vie. Et je raconte un peu tout dans le livre, mais pas toujours tout en interview, parce que sinon, après, c'est un peu glauque. C'est dur de se raccrocher. Mais il n'y a évidemment pas eu que le handicap qui m'a abîmé dans la vie. Et donc, je suis arrivée à presque 30 ans assez désespérée, en tout cas, quant à ce que je pouvais représenter dans la société. J'étais persuadée que personne ne m'aimerait jamais, que je réussirais jamais à fonder une famille, etc. Donc j'étais un peu prête à tout accepter pour être aimée. Et ce que j'ai fait, donc je suis restée quasiment 10 ans avec quelqu'un qui avait ses raisons, en tout cas, pour être violent, agressif et finalement pas très gentil avec moi. Et puis, quand ma fille est née, je me suis rendu compte que ce que j'acceptais, ce n'était pas acceptable. Et que surtout, j'étais en train de fabriquer peut-être une future victime. Parce que quand toi, tu acceptes des humiliations, de la violence, etc., devant un bébé, bah, finalement, lui, il se dit que c'est normal, puisque c'est sa normalité. Et je voyais dans le regard de mon bébé des moments où elle était en dissociation, comme si elle voulait s'échapper de notre vie, alors qu'elle... Elle avait quelques mois et je me suis dit que ce n'était pas possible. J'ai eu des fractures, j'ai eu des vraies choses très, très violentes où elle était là. Et il y a eu la dispute de trop où je me suis enfuie avec elle en pleine nuit. J'ai été recueillie par mes parents pendant quelques mois. Et là, j'ai eu honte parce que j'avais l'impression que moi, j'avais eu toutes les cartes en main pour ne pas en arriver là dans la vie. Enfin, j'avais fait des études, j'avais un métier, j'avais déjà surmonté pas mal d'épreuves, j'aurais été capable peut-être de réagir avant. J'avais un papa médecin, une maman institutrice, dans le sens où j'ai pas grandi dans un milieu défavorisé, je sais bien m'exprimer, donc j'aurais pu appeler à l'aide avant. Enfin, je supportais pas en fait d'être convoquée par des assistantes sociales, convoquée au commissariat, etc., pour avoir à expliquer des choses que, en gros, ça ne devait pas être moi. D'accord. Et du coup, j'essayais de comprendre qui étaient les femmes qui finissaient par mourir de la violence dans leur couple.
C'est intéressant ce que tu disais, que tu ne te rendais pas compte. Les gens sont la tête dans le guidon et acceptent finalement des choses dont ils se disent un moment, mais comment j'ai pu accepter
en
tout
fait,
ça?
En fait, pour moi, je ne correspondais pas au stéréotype de la femme victime de violence. Et quand la policière a écrit noir sur blanc sur la plainte que la police m'a obligée à déposer, que j'avais été victime de violences psychologiques et physiques dans mon foyer, ça m'a fait un choc terrible. Parce que pour moi, c'était pas moi. ça devait être que des femmes qui n'avaient pas d'argent ou qui ne savaient pas bien parler français, etc., dans la mesure où elles ne pouvaient pas s'exprimer. Et donc, j'ai commencé à tout simplement à chercher qui étaient les femmes qui finissaient par en mourir pour savoir si j'étais folle ou s'il y en avait d'autres des comme moi. Et à chaque fois que je cherchais, je tombais soit sur des articles de faits divers où il n'y a aucun mot sur les victimes, juste les circonstances de leur mort, soit ce qu'on trouve sur les posts des réseaux sociaux, des associations, c'est-à-dire les décomptes de victimes. Mmh. On en est à 42, 43, 100, 101 féminicides cette année. En moyenne, c'est 125 par an.
Et là, je quand on dit 125, c'est décès. Ça va jusqu'au décès. Ou carrément.
Ah non, les violences conjugales, c'est une femme sur cinq en France qui a vécu, vit ou vivra des violences dans son foyer.
Ce qui est plutôt haut par rapport à l'Europe et
c'est
le monde.
C'est énorme. On est quasiment les plus mal placés d'Europe.
Aïe.
Voilà. Donc c'est énorme. Et la proportion est la même dans les entreprises, elle est la même dans
tous
les milieux.
Pourquoi tu dirais que la France est particulièrement visée? C'est le côté latin qui ressort ou qu'est-ce que c'est qui explique?
Alors, il y a effectivement un problème sociétal, quelle place on donne à l'homme, quelle place on donne aux femmes dans notre société, qui sont qui n'est pas la même chose.
Donc on reste un schéma un petit peu, encore un petit peu patriarcal, et on n'est pas si progressiste en la matière.
Tout à fait, et puis on ne s'est pas encore donné véritablement les moyens, comme en Espagne, pour combattre ce fléau. Enfin voilà quoi, l'Italie et nous, on n'est pas des bons élèves.
Comment ils ont fait l'Espagne ? Quelles avaient été un peu les mesures clés ?
Alors déjà, bah, y a plus de punitions. Il y a plus de mise à l'écart des conjoints violents. Il y a plus de paroles, de confiance accordée à la parole de la femme. Enfin, je veux dire, quand on porte plainte, c'est pris en compte, ce qui n'est encore malheureusement pas toujours le cas en France, alors que c'est interdit. Enfin, je veux dire, un policier n'a pas le droit de refuser une plainte. Mmh. Et puis surtout, dès qu'on porte plainte, il y a un suivi qui est fait, il y a un logiciel spécial
qui
s'appelle, voilà, qui s'appelle Viogène, qui arrive à comment dire, rapprocher tout ce qui va être le médical, le juridique et le policier, ce qui n'est absolument pas le cas encore en France. Et puis il y a beaucoup plus de prévention.
D'accord, plus voilà. De prévention. Donc là, oui, l'aspect aussi judiciaire est beaucoup plus développé en la matière. Et une vraie transparence, un vrai suivi, là où en France, il peut y avoir encore plein, comme tu dis, de plaintes qui malheureusement ne sont pas traités. Il y a des longueurs de cycles énormes. Il y a tout ça aussi.
Je vais te donner un chiffre qui va te faire froid dans le dos. Sur les 125 féminicides annuels, pour un tiers des cas, il y avait une plainte qui avait déjà été déposée. D'accord. Une, voire plusieurs. Donc,
comment ça peut bouger, ça voudrait dire que c'est un appareil judiciaire qui va être beaucoup plus local, beaucoup plus des têtes de pont aussi dans les villes et tout ça.
Moi, ce dont je suis convaincue, c'est que la prévention, ce n'est pas uniquement dans les écoles. C'est que pour moi, déjà, la plupart des femmes n'ont pas la bonne définition de ce qu'est la violence. Mmh. La violence, c'est quand finalement, il n'y a pas de réponse possible. On continue de se représenter les femmes victimes de violences avec des bleus, avec des violences physiques, alors qu'en fait, dans plus de 60% des cas, les femmes qui meurent de féminicide ont reçu leur premier coup le jour où elles sont mortes. D'accord. Le point commun dans toutes les victimes, parmi toutes les victimes, ça a été la violence psychologique, c'est-à-dire les menaces au quotidien, les disputes à répétition. En fait, à partir du moment où on commence à changer son comportement pour éviter les disputes, on est déjà en danger.
Okay.
À partir du moment où on va plus s'habiller, pareil, parce qu'on veut éviter absolument la remarque et les disputes pendant deux jours, quand on va pas mettre un commentaire sur le compte d'un homme sur les réseaux sociaux, même s'il est notre ami depuis 25 ans, mais ça va l'énerver, ça va être encore une dispute, tout ça en fait, c'est déjà être en danger.
Il faut dire que la période Covid n'a pas aidé, parce que ça a plutôt accentué tout ça, avec ce rapport beaucoup plus enfermé. Familles et des couples.
Et plus d'échappatoire.
Donc ça a été pourtant un énorme accélérateur de tout ça.
Bah, moi, me suis enfuie après le confinement.
Toi, c'était après le Covid. Mais dans la période Covid, toi, ça s'est
tout
passé.
Tout à fait. Moi, en fait, le Covid a été invivable. J'ai fini. Enfin, ça s'est terminé en mai. Moi, je suis partie dans la nuit du 5 au 6 juin.
D'accord.
Donc oui, ça a été un accélérateur. Mais ça a été un accélérateur. C'est oui, l'enfermement, oui, tout ça. Mais c'est surtout que ça a fait exploser la plupart des psychoses qui étaient latentes chez beaucoup d'hommes qui étaient déjà violents, mais qui du coup n'arrivaient plus à se maîtriser. Et le problème vient aussi de là pour moi. On a un véritable blocage en France avec le fait de se faire suivre, comme on dit, par un psychiatre.
C'est d'en parler aussi, d'avoir des médiateurs, d'avoir des tiers de confiance. C'est ça qui est le plus dur aussi.
Non, mais il faut regarder les choses en face. La plupart des hommes violents le sont parce que derrière, il y a des addictions, parce que derrière, il y a des psychoses, parce que derrière, il y a des maladies mentales pas soignées. Ce n'est pas une déresponsabilisation. On n'est pas responsable d'être malade, on est responsable de ne pas se faire soigner. Et ils sont persuadés qu'ils ne sont pas fous. Ils sont persuadés que ce n'est pas pour eux. Alors que moi, je...
C'est souvent une espèce, finalement, de réflexe de protection. Et ils partent comme ça, finalement, leurs problèmes à eux.
Mais même une personne normale. On a le cerveau, son métier, c'est de fabriquer des névroses. Voilà. Donc moi, j'ai toujours envie de dire aux gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de voir un psy que c'est justement qu'ils en ont besoin. Parce qu'une personne équilibrée, elle sait qu'elle a besoin de se faire suivre.
En France, c'est encore un peu tabou.
C'est totalement tabou.
L'histoire des psychanalyses et de la psychologie, on est encore très en retard par rapport à plein de pays occidentaux
là-dessus. C'est totalement tabou. Enfin, je veux dire, on devrait passer une visite médicale du cerveau, finalement, de l'état psychologique, une fois par an, comme on le fait pour tout le reste, en fait.
C'est aussi, oui, le fait que les gens n'acceptent pas l'idée qu'ils puissent être aidés. Il y a beaucoup d'ego et d'orgueil derrière
voilà.
tout ça.
Mais ce qui est une maladie mentale. Et donc, pour en revenir à la jeunesse de 125, quand je suis arrivée chez mes parents et que je voyais que finalement, eh bien, il n'y avait que les chiffres qui pensaient, je me suis dit, bah, très bien, les statistiques, on en a besoin. En revanche, si on veut se représenter ce que c'est, il va falloir les humaniser absolument. Et donc, je me suis dit, bah, 125 qui meurent en moyenne par an, de la violence de leurs compagnons ou ex-compagnons, ben moi, je vais retrouver 125 familles, les interroger pour savoir qui leur maman, leur fille, leur sœur était et pas comment elle est morte. Et comme ça, peut-être qu'on se rendra compte qu'elles sont ben, comme nous.
T'es allé voir les 125 alors ? Oui, quasi.
Bien sûr, j'ai retrouvé.
C'est une vraie enquête, quoi.
Ah, mais ça m'a pris 3 ans, parce que t'imagines bien qu'entre le moment où on lit un prénom dans un article et celui où on obtient le numéro de portable de la maman, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes qui entrent en compte et beaucoup de temps. Et je veux dire, quand j'ai mis des mois à retrouver les 3 premières. Quand j'en suis arrivée à 30, j'étais hyper fière. Et puis très bêtement, j'ai fait la soustraction 125-30. Je me suis dit, bah, je suis dans la merde là. À un moment donné, j'étais tellement désespérée. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. J'ai voulu faire appel à un détective privé, j'en ai contacté 2. Les 2 m'ont d'abord dit c'est 1 000 euros la femme. Et ensuite, ils m'ont dit j'ai besoin de la date de naissance et du nom de famille, chose que je n'avais pas. Et donc, ils m'ont dit bon, vous y arriverez jamais. Donc, ils ont refusé de m'aider en me disant c'est impossible.
Bon, bah, t'as fait toi-même ton enquête, en tout cas. Tu l'as vu le film qui vient de sortir avec Virginie Efira et Melville Poupeau ?
Non, je t'avoue que j'avais lu le livre et que.
Il t'avait parlé ce livre ?
T'avais énormément. Cette époque-là, m'avait énormément parlé. Ça avait commencé, si tu veux. Enfin. Sortir de l'emprise, c'est une petite pierre par-ci, une petite pierre par-là, et il faut accepter de les voir comme des petites pierres. Et pour moi, ce livre a été un véritable choc, parce que c'est ce que je vivais au quotidien.
Le message, en tout cas, à mon avis, va toucher les auditeurs, les auditrices. Quelques mots pour finir la dernière partie du podcast. Sur l'écriture, là, je reviens plus dans des choses plus, on va dire, un petit peu plus légères et créatives. Comment tu t'y prends, toi, pour écrire au jour le jour? C'est quelle est un petit peu ta routine? Est-ce que tu es finalement une gymnastique assez régulière ou est-ce qu'il y a des périodes où tu es plus créatif, tu t'arrives à plus délivrer? Parce que c'est écrivain, moi j'ai toujours eu beaucoup de respect parce que c'est beaucoup, beaucoup de boulot avant d'aboutir du résultat final, je dirais.
Ah bah, de toute façon, l'écriture, c'est de la réécriture. Et alors moi, il ne faut pas me demander de relire un de mes romans parce que je vois 50 fautes ou phrases que j'aurais tournées autrement. Donc voilà, c'est juste... accepter de se dire pour celui-ci, à ce moment-là, c'est terminé. Et après, je dirais que les cycles, ils sont plus en fonction.
Tu l'as écrit en combien de temps? 125 et quelques milliers. Du coup, ça s'est étalé sur plusieurs années.
125 et des
années.
Milliers, ouais, ça m'a pris quasiment 3 ans.
Ok, donc c'était un gros.
Ouais. Bah, parce qu'il y a vraiment 3, je dirais, axes d'écriture dans ce livre. Il y a les chapitres qui racontent mon histoire, enfin, où je raconte mon histoire, ou plutôt ce que j'en ai compris. Les portraits des victimes. Et les interviews de ce que j'ai appelé les témoins, en fait, qui sont toutes les personnes qui entrent à un moment donné dans la chaîne de la violence, c'est-à-dire, ça va de ma maman à qui j'ai demandé ce que ça faisait d'avoir une fille sous emprise et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas agir. Mais il y a aussi une policière, une magistrate, une juge, une psychiatre, une spécialiste des chocs post-traumatiques, etc.
Ça a dû être passionnant, en tout cas, tout ce travail.
Ah, mais
hein.
Moi, je...
Tu as dû apprendre énormément de choses sur la nature humaine, sur toi même, j'imagine, dans le regard des autres qu'ils avaient sur toi. Et
tout à fait. Ah, c'est... Voilà, non, mais c'est très important, en fait. Et encore une fois, je crois véritablement que dans la vie, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et il ne faut pas... moi, j'ai toujours peur des gens qui disent « ça y est, on passe à autre chose, c'est le passé ». En fait, le passé, il reste là tant qu'on ne l'a pas affronté. Et ça veut dire l'affronter sous toutes les coutures. Et du coup, moi, j'ai vraiment plongé dans cette problématique qui m'a fait perdre quelque part 10 ans de ma vie. Mais aujourd'hui, je ne considère pas que ces années sont perdues parce que elles m'ont permis de faire tout ça parce que j'ai activé quelque chose en moi de l'ordre de l'exploration, tout ça. Donc, quelque part, c'est une façon de redonner vie à ces femmes, mais redonner vie aussi à ma vie.
Bah écoute, c'est un super message. Alors, tes goûts, alors c'est la question que je pose toujours aux invités, tes goûts en matière de, ça peut être de séries, de ciné, de BD ou de musique, enfin voilà, des créations qui t'accompagnent de tout temps, je dirais.
Alors bon, effectivement, t'as misé très juste avec La Vie devant soi, parce que c'est Romain vraiment Garry.
Émile Ajar.
Ouais, ouais. Oui, d'ailleurs, je suis beaucoup plus période Émile Ajar que Romain Garry. Mais oui, enfin, moi, j'ai l'impression que quand je suis en face d'un roman de Romain Gary, je suis un peu avec mon grand-père, donc, parce qu'ils avaient beaucoup de traits communs, etc. Donc, pour moi, c'est aussi un lien très spécial, presque familial. J'essaye, en fait, toute ma vie, c'est une épreuve de détachement. Donc, j'essaye de ne pas avoir comme ça de gris-gris.
Trop d'influence, oui, de ouais. Tu veux dire, par des créations existantes.
Voilà, récemment, dans les films qui m'ont marqué, il y a eu The Whale, mais pour moi, c'est difficile de voir des films et de lire des livres parce que ça me fatigue énormément les yeux. Donc, j'écoute beaucoup de livres audio, j'écoute beaucoup de personnes. Je fais beaucoup de méditation. En fait, le voyage, pour moi, il est surtout intérieur qu'extérieur. C'est pas que je veux pas, c'est que déjà, je travaille énormément et que... la moindre lecture m'épuise. C'est pas très courant pour une écrivaine.
C'est bien ce que tu dis, parce qu'on est en train d'explorer le audio, le sound healing. On va peut-être mettre en place des choses par l'audio qui pourraient aider à la guérison. Parce que je pense qu'il n'y a pas que l'image, comme tu le dis, le son est majeur et on le sait, il est en train de devenir important. Mais
alors, tu dis... je suis intimement convaincue de tout ça. J'écoute énormément de podcasts et j'ai enseigné à un moment donné dans plusieurs écoles, notamment un cours sur les podcasts, et où je me demandais moi-même comment ça se faisait que j'avais ce bien-être en écoutant des podcasts, quelle que soit la thématique d'ailleurs. Et en fait, j'ai retrouvé une scientifique qui avait été faite à Harvard ou à Columbia, je ne sais plus très bien, où il faisait des IRM de cerveau de personnes en train de lire, puis en train d'écouter des podcasts. Mmh. Et il se rendait compte que c'était exactement les mêmes zones qui étaient stimulées, à la différence de l'audiovisuel. C'est-à-dire que l'audiovisuel te coupe de toute une partie émotionnelle.
Ça, c'est très vrai.
Liée à l'imagination. Et finalement, tu les revis de façon même exponentielle lorsque tu écoutes un podcast, parce que c'est les mêmes zones touchées dans ton cerveau, plus les émotions de la voix.
Il y a plus d'attention et d'écoute, parce que peut-être ce qu'on peut reprocher, même si j'adore les séries et les films, c'est qu'il peut y avoir un côté un peu passif dans la manière dont on accueille le contenu, alors que sur l'audio, comme tu le dis, il y a une attention, il y a un côté plus humain.
Oui, c'est tout. C'est toutes ces parties émotionnelles actives en fait, parce que quand on lit un livre, on a l'imaginaire qui se met en route, et finalement, ce sont les mêmes zones de l'imaginaire qui sont touchées dans le cerveau lorsqu'on écoute un podcast, ce à quoi s'ajoute l'émotion véhiculée par la voix de la personne qu'on entend.
Et sans doute ça renoue un petit peu avec ce qu'on trouve dans les bons livres sur un peu la lecture quelque part, une attention et qui se dissocie un peu d'une tablette ou d'un écran. C'est unique ce qu'on retrouve dans les livres.
Déjà, et puis alors moi je te dis, dans mon cours je suis même remontée très loin, parce que c'est un sujet qui m'a fascinée et je suis intimement convaincue, j'ai pas de preuves pour le coup là-dessus, mais entendre une voix comme ça qui nous parle, ça fait écho au moment où finalement nos mamans nous racontaient des histoires le soir, au moment même primordiaux pour nous lorsqu'on était dans le ventre de nos mères et qu'on ne faisait qu'entendre des sons. Et quelque part, ce sentiment de bien-être que l'on a lorsqu'on entend, ça nous remet dans un plaisir narcissique, au vrai sens de narcissique, c'est-à-dire lorsque notre ego était apaisé d'avant même notre naissance. C'est pour ça qu'on est bien quand on écoute des podcasts.
Bon, ça j'aime bien pour la fin du podcast. On revient à l'origine, à la genèse.
Exactement.
Et le tout dernier question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut qui a eu des handicaps ou qui a connu des épreuves très dures comme celles que tu as connues ces 10 dernières années. Voilà, qu'est-ce que tu dirais à une femme, un homme aussi, ça peut aussi être un homme qui vit ses épreuves.
Je dirais déjà de se réconcilier autant que possible et par n'importe quel biais possible avec son corps. Moi, je sais que de ne pas voir, ça a totalement modifié mon équilibre, mon rapport à l'espace, mon rapport à mon corps, puisque je ne voyais plus si j'avais des poils ou pas, si j'étais bien maquillée ou pas. Enfin, pour une jeune femme de 27 ans qui était célibataire, c'était extrêmement compliqué d'être dans une posture de séduction quand on ne sait pas l'image que l'on renvoie et qu'on n'a aucune prise là-dessus. Et finalement, je me suis mise à nager pour être dans un autre contexte, une autre gravité, redécouvrir mon corps autrement. Je me suis mise à méditer, à faire du yoga. En fait, je voulais Enfin, voilà,
reprendre possession de ton corps.
On connaît notre corps dans les habitudes que la société occidentale nous impose. On ne le connaît pas dans d'autres circonstances. Donc, quand on a un handicap, c'est un handicap par rapport à une certaine vie. Par rapport à une certaine vie dont on a rêvé, par rapport à... Voilà, quand on est dans un fauteuil, on se sent tout le temps exclu parce que la ville telle qu'elle est construite en France n'est pas faite pour les handicapés en fauteuil. Mais elle est peut-être différente dans un autre mode d'envisager la vie.
Très intéressant ce que tu dis. Donc toujours les perceptions qu'on a et que l'être humain a et qui peut le fausser par rapport à des choses qui lui feraient du bien.
En fait, exactement. Resituer, recontextualiser où se situe le handicap pour trouver là où il ne l'est pas.
Bon, et bah écoute, le message en tout cas est passé et je pense que les auditeurs ont été très sensibles à tout ton témoignage. Merci beaucoup, Sarah. J'espère. C'était un plaisir de t'avoir pour ce podcast. Merci
pour
à toi.
Moi aussi, merci.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.